Je vais revenir au problème de normes. Je vais essayer de le placer dans un vécu médical, puisque c'est une matinée médicale. Et je vais essayer de vous faire partager un peu la facilité, la difficulté de choix d'attitude ou de prise de décision face à un problème qui peut paraître, par comparaison avec ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant, disons presque trivial. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, il n'est jamais trivial pour celui qui pose la question parce que c'est le patient. Il peut paraître un peu trivial pour le médecin parce qu'il ne lui paraît pas à tort ou à raison grave. En disant ça, je crois que j'ai un peu planté le décor. Deuxième élément du décor, il est venu au cours de la première conférence quand Kilborn a dit ou a demandé dans quelle mesure peut-il y avoir et doit-il y avoir un rapport entre l'apparence et l'identité. Et effectivement, ce que je vais vous dire, c'est comment le médecin peut être confronté chez l'enfant au problème de la petite taille, apparence, et quelles questions il se pose sur l'identité forgée à partir de cette apparence. Mais je vais dire tout de suite que la complexité du problème que je ne pourrais pas aborder sur le fond est sûrement très grande parce qu'on a affaire à l'enfant, donc on a affaire aux parents, et qu'il y a sur cette apparence, cette notion d'apparence, celle que se forgent les parents et celle que se forge l'enfant, et en notion d'identité, l'identité des parents qui est projetée sur l'enfant et l'identité propre de l'enfant. Et si on a tout ça en tête, eh bien, on va essayer de conduire maintenant une certaine attitude médicale. Dans l'exposé qui suit, je vais donc me situer en tant que médecin, confronté avec une certaine représentation du corps, pour laquelle son intervention, comme je vous l'ai dit, est sollicitée. Et je voudrais surtout montrer donc les difficultés de l'approche clinique qui interviennent, ou devraient intervenir, je dis bien devraient intervenir, dans sa prise de décision. Et évidemment, tout ceci va nous conduire à évoquer la nécessité, parfois ignorée ou pas explicite, d'exigences éthiques. Alors, bien sûr, d'une certaine manière, je réalise, je m'adresse un peu à Gérard Vamser, peut-être que d'une certaine manière, j'empiète sur ce que pourrait être un prochain séminaire sur l'éthique médicale et les choix médicaux et les comportements. Donc, j'ai essayé de me tenir quand même un peu à l'écart de tout ceci et de vous montrer comment on va gérer cette situation très particulière que je vais maintenant vous décrire. En choisissant une problématique de croissance de l'enfant, nous verrons que le praticien, position que je prends maintenant, est confronté avec des normes anthropométriques, mais aussi avec des normes psychosociales. Alors, leur utilisation différente par le médecin d'une part et par les parents et les enfants d'autre part conduit évidemment à rendre particulièrement difficile la prise de position thérapeutique. En ce sens, je pense aborder une autre facette de la diversité des représentations de l'enfant qui grandit et de l'enfant qui grandit mal. Alors, la problématique médicale, elle est simple en apparence. L'enfant est trop petit. À première vue, la consultation spécialisée pour petite taille est simple. Elle doit se dérouler devant, selon un scénario médicalement bien défini. Il s'agit d'un enfant généralement vu dès le début de sa scolarisation. J'essaye un peu de planter le décor. Considéré comme trop petit par son médecin, par ses parents, par son entourage, par les trois à la fois éventuellement. Le schéma de réflexion médicale est assez bien établi. Le premier souci est d'écarter évidemment une pathologie. On a les moyens de le faire. Il faut le faire parce que ceci impliquerait une approche thérapeutique spécifique. Alors, le rôle du médecin devient évidemment plus subtil et paradoxalement plus complexe si la petite taille n'a pas de cause pathologique. On ne peut pas balayer d'un coup de main le problème. On est confronté avec ce qui va apparaître comme la demande des parents, la demande de l'enfant ou des deux. Alors, cette petite taille, elle est dite, à ce moment-là, elle est dite idiopathique. C'est un terme que je vais reprendre ultérieurement, éventuellement. Alors, certaines caractéristiques cliniques permettent encore de sortir certains groupes. Et une fois qu'on a sorti ces groupes, on s'en a vraiment écarté toutes les possibilités pathologiques. Et il nous reste à ce moment-là à évaluer, ce qui n'est pas facile, les risques. Et je vais y revenir, le risque en particulier de petite taille ultérieure, parce que la question qui est tout de suite posée, ce n'est pas la petite taille d'aujourd'hui, mais c'est peut-être aussi la petite taille de demain. Alors, c'est cette population d'enfants et leur venue chez le spécialiste qui font l'objet maintenant de ce que je vais développer. Ce sont les raisons de cette évolution de la médicalisation croissante et leur influence sur le processus de décision médicale qui nous intéresse, car on le verra, elles participent plus souvent d'une évolution, disons, plus générale, où s'exercent des contraintes économiques, sociales et culturelles auxquelles le médecin ne peut pas complètement échapper. Et l'attitude des parents montre d'ailleurs qu'eux-mêmes n'échappent éventuellement pas, naturellement pas à ces influences. Et je vais considérer quatre points qui ont une importance inégale, mais que je voudrais juste évoquer avec vous. Premièrement, je voudrais parler des normes ou références oxologiques qui constituent un corpus de connaissances pour le pédiatre, mais les parents n'ont pas les mêmes références, on va le voir. En deuxième point, indiquer et revenir sur l'influence actuelle des développements technologiques qui mettent à la disposition des médecins, et les parents le savent, des thérapeutiques parfois très puissantes, mais sont-elles utiles? Troisièmement, il existe une pression sociale qui est réelle, qui est complexe, et elle façonne, à mon avis, une partie du vécu de l'image corporelle. Et enfin, au centre de tout ça se trouve le médecin, qui devient de ce fait relativement vulnérable, même s'il n'a pas d'obligation de résultat. Et j'essaierai de vous montrer que je crois qu'il a obligation de résultat quelque part. Alors, les normes de croissance ou les références oxologiques. Au plan strictement scientifique, ces normes sont une donnée objective, un traitement statistique des paramètres somatiques. Vous savez sans doute tous comment on procède. Il existe une population. À un âge donné, les tailles de cette population se distribuent. Il existe une distribution simplement entre plus 2 et moins 2 déviations standards autour de la moyenne. Pour des raisons de confort, parce qu'il faut tracer des limites dans la pratique, je ne théorise pas ici, on dit que si une taille se trouve en dessous de la deuxième déviation standard qui est en dessous de la moyenne, et il y a quand même une autre probabilité de pathologie, bien, on en a parlé, mais il y a aussi peut-être une autre possibilité de handicap, on en parle, mais on n'en a pas toujours la preuve. Alors, ça fait 2,5% de la population. 2,5% de la population, c'est 20 000 enfants qui naissent par an. Si tout le monde pose la question de sa petite taille, ça fait quand même une population qui pourrait se sentir largement concernée. Donc, en présence d'un retard statural, cette approche est vraiment très réductrice. Elle est simplificatrice à l'excès, même si elle est la première étape obligée du diagnostic. Mais surtout pour les parents et pour l'enfant, à partir d'un certain âge, cette forme normalisée de leur problématique n'est évidemment pas acceptable. Elle l'est d'autant moins que les investigations médicales n'ont pas mis en évidence de pathologie connue. Et cela est vrai, car leur enfant est, mais surtout paraît petit, pour bien des raisons qui n'ont évidemment rien à voir avec les statistiques. Et la première consultation va avoir d'ailleurs beaucoup de difficultés à mettre en évidence ces raisons. Le deuxième point est la pression sociale. La pression sociale est un fait nouveau qui envahit évidemment la consultation. L'enfant est désigné comme petit et cette différence est insupportable pour les parents et pour les enfants. Je ne voudrais pas généraliser, je parle de celui qui vient à la consultation. Il y a forcément là un biais. On voit se construire une vision d'handicap actuel et à venir, car c'est le devenir de cet enfant petit qui fait l'objet de toutes les craintes. Alors, toutes les angoisses familiales convergent sur sa taille, et on ne peut s'empêcher de voir dans cet enfant une possible victime des faiblesses, et parfois des faiblesses réelles, de la cellule parentale. Taille réellement petite, ou petite taille, présentation d'un vécu mal assumé par les parents, il est difficile de faire la part des choses. Et pourtant, ceci ne sera pas négligeable lorsqu'il faudra prendre une décision, c'est-à-dire lorsque le médecin doit choisir une attitude. Une décision, j'entends pas par là, traiter. Ne pas traiter est aussi une décision. Alors, les images véhiculées dans notre culture, confortées par l'environnement au quotidien, ne font évidemment pas place aux petits. C'est une banalité que de dire qu'il n'y a pas de place pour la différence, et ceci est devenu tragiquement vrai, même dans le monde des enfants. Tout nous autorise à penser que ceux-ci constituent heureusement une minorité, mais ils existent et c'est difficile à chiffrer. En tout cas, force est de constater que la différence que constitue la petite taille ne s'assume pas sans effort et sans volonté de réussir. On a dit que la réussite d'un politique dépend de sa taille. Les cadres et les présidents des États-Unis ont une taille moyenne plus élevée que la moyenne de la population aux États-Unis. Ça a été publié, ça a été fait plusieurs fois. Il y a eu une chaîne de magasins aux États-Unis qui a fait sa réussite en affichant « Bigger is better ». Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, mais à un moment, à New York, il y avait plein de magasins « Bigger is better ». Tout était grand, la cuillère, les vêtements et tout. Le pédiatre ne peut pas ignorer cette pression médiatique et d'ailleurs, je crois qu'elle ne l'épargne pas complètement et c'est vraiment un problème en soi. À ce stade de notre analyse, on voit que le choix d'une attitude, donc celui d'une éventuelle prescription de médicaments, en particulier médicaments hormonaux, parce qu'on pense à hormones lorsqu'on pense croissance, est confronté à des représentations de la petite taille de l'enfant qui se situe à des niveaux multiples, individuels, familiales, collectifs, sociaux. Et on ne peut pas réduire la plainte sur la taille à la valeur trouvée sur la toise aux consultations. Alors, les innovations thérapeutiques qui sont issues de la biotechnologie, évidemment, nourrissent les demandes des familles. Je ne vais pas m'étendre trop là-dessus, mais tout le monde sait que depuis 1985, l'hormone de croissance a été le premier médicament produit par recombinaison génétique, qu'il est un stimulant majeur de la croissance, que c'est évidemment un produit actif sur la croissance. Mais juste parce que c'est important dans le processus de décision de prescription, vaut mieux savoir qu'il faut une injection quotidienne pendant au moins 5 ans et parfois pendant 10 ans pour gagner X centimètres. Donc, ce n'est pas le traitement homéopathique de 15 jours. Alors, le médecin doit-il prescrire ? Le traitement n'est pas inéluctable. Il va être envisagé en fonction de beaucoup de considérations. Et ce que je voudrais maintenant vous dire, c'est que le corpus de connaissances médicales qui conduirait à l'acceptation ou le refus du traitement dans le cadre de la population d'enfants petits bien portants que j'ai décrite tout à l'heure, eh bien, il faut reconnaître qu'il est fragile et qu'il est controversé. Les situations là où il manque complètement d'hormones de croissance, traiter est une évidence, est une nécessité. Et le résultat est clair et net et ne pose véritablement pas de problème. Par contre, on va être confronté avec plusieurs questions. Alors, ceci m'amène d'abord, en tant que médecin, à une autre dimension de la représentation corporelle qui ne devrait pas être absente de l'analyse, qui est la dimension psycho-affective. Je ne peux pas la laisser complètement de côté avant d'aller plus loin dans la discussion de la prescription, parce que je crois qu'elle s'est évidemment fortement présente dans le contrôle de la croissance de l'enfant. Tout le monde sait que des carences affectives ont été décrites chez le nourrisson sous le nom d'hospitalisme, et c'est une très ancienne donnée du milieu du siècle dernier. Mais cet impact de la relation affective de l'enfant avec ses parents et avec son entourage sur sa croissance est parfaitement maintenant bien connu, bien au-delà de l'âge de 3 ans, chez le jeune enfant, jusqu'à la fin de sa croissance. Et on connaît des blocages très spectaculaires de la croissance. Je ne parle pas du tambour dans Gunther Grass ou d'autres modèles plus connus, aussi connus du grand public. Je parle d'une manière, disons, plus générale de ce qu'on a appelé à un moment donné, je dis ça entre guillemets parce que je n'aime pas cette terminologie, le nanisme psychosocial, disons le blocage de croissance par carence psychoaffective. Et si cette composante affective est tellement importante, elle reste malgré tout très difficile à appréhender. Et pourtant, tout se passe comme si elle avait pour cible élective la croissance de l'enfant. Il y a des situations de carence psychoaffective où seulement la croissance est modifiée. Il y en a d'autres où l'impact est complètement différent. Ceci est quand même très extraordinaire. Donc, il devient très important de comprendre, avant de décider d'un traitement, l'environnement et le tissu familial de cet enfant, ce qui n'est pas évidemment pas simple, car en plus, si cet enfant est en carence psychoaffective était soumis à un traitement hormonal, disons par l'hormone de croissance, il sera très probablement très mauvais répondeur au traitement. Paradoxe que la biologie n'a d'ailleurs pas expliqué encore. Donc nous avons besoin maintenant, je voudrais dire, il y a trois étapes qui me restent à évoluer, nous devons donc décider du traitement par éventuel, conduire ce traitement et en évaluer les résultats. Et vous allez voir que chaque étape a ses difficultés. Oh, je ne vais pas aller dans le détail, mais décider du traitement, je viens de vous dire la difficulté, les limites. Conduire le traitement sur le long terme implique une compliance peu ordinaire. On a évoqué tout à l'heure le problème de compliance pour l'enfant et la famille dans les nombreux cas, parce que ce traitement n'est pas immédiatement spectaculaire. La poursuite du traitement devient un enjeu de négociation véritable entre médecins et patients. Et on n'est pas étonné si les arguments des uns et des autres sont aussi différents que possible au fil du traitement. La connaissance clinique du médecin affronte le vécu du malade, entre guillemets. Il n'est pas malade, mais comme il est traité, il est peut-être devenu malade. Autre problème. La connaissance scientifique du médecin ne va pas pouvoir à elle seule gérer le problème jusqu'au bout. Et pour une simple raison, c'est qu'elle a ses propres limites. Donc le risque est réel que les changements de l'image corporelle ne soient même pas perçus convenablement par les uns et par les autres, et en particulier par l'enfant, et qu'au fil du temps, on se pose des questions sur la nécessité et les objectifs même du traitement, sur plusieurs années. Évaluer les résultats. Évaluer les résultats, voilà encore une autre difficulté. Combien faut-il gagner de centimètres pour estimer qu'il y aura bénéfice pour l'enfant en termes de représentation de son image, dans le vécu scolaire, dans son insertion sociale future? Pour simplifier, ça voudrait dire que on cherche à éviter un handicap potentiel. Mais potentiel veut dire quoi? Parce que ce handicap n'est pas inéluctable et ce serait trop simple, et ce n'est pas le cas, il n'y a pas de corrélation exprimable entre le déficit en taille et le mal-vivre ultérieur. Pire que ça, un certain nombre d'études, elles ne sont pas nombreuses, mais elles paraissent assez solides, ont montré que lorsqu'on prend des populations, ça a été fait en Angleterre, ça a été repris aux États-Unis au cours de cette dernière décennie, les plus petits de la population, peut-être pas exactement ceux qui seraient venus demander un traitement, je ne peux pas le dire, mais finalement n'ont pas une réussite socio-professionnelle et une insertion dans la vie tellement différente des autres. Donc le bon sens et les rares études de population auxquelles je faisais allusion jusqu'à maintenant ne nous laissent pas penser qu'il y a une absolue nécessité générale de s'engager dans un traitement. Et nous savons donc très mal ce que les changements immédiats et futurs finalement vont avoir comme impact sur le vécu ultérieur. Finalement, la distance entre pathologie et perte de confort, la ligne séparatrice entre les deux est fort difficile à trouver. Donc vous voyez, lorsqu'on a mis tout ceci ensemble, poser l'indication d'un traitement au cas individuel, confronté avec des données qui sont des données statistiques, générales, qu'on appelle les résultats des études cliniques, est finalement très difficile si on ne veut pas esquiver la réalité du problème. Finalement, et en conclusion, je pense que les représentations que se font chacun de leur côté, le médecin, les parents avec leur enfant ou l'enfant, et le corps social, d'une particularité corporelle, en l'occurrence la petite taille, sont différentes mais complémentaires. Nous sommes conduits à une nécessité éthique, si la question est posée au plan médical, en termes de décision. Pour engager une réflexion ici que je ne peux pas développer, je voudrais simplement donner trois pistes pour terminer, pour peut-être rendre des problèmes encore plus complexes. Il y a une éthique de la décision qui implique une vision critique des possibilités et nécessités d'action thérapeutique. C'est le travail du médecin et il a ses difficultés et ses limites. Il y a une éthique de la prudence. Faut-il interdire par précaution, car aucun traitement n'est dénué de risque? Mais comment opposer risque et résultat? Et enfin, il existe une éthique sociale concernant l'accès aux soins. Ce que je n'ai pas dit, c'est que le coût économique d'un traitement est assez considérable. Et ceci peut un peu bousculer des impératifs de solidarité, de santé, que la société actuelle cherche quand même à faire valoir. Je vous remercie.
Merci beaucoup.
Ah, non, je reste là. Je reste là.
Dans le cas du traitement, uniquement dans ce cas-là,
Vous avez dit le problème vient de ce que finalement l'enfant va se découvrir malade, va se penser comme malade s'il est traité. Alors ma question était celle-ci, est-ce que finalement on construit un enfant ou un adolescent qui va avoir le sentiment que sa nouvelle identité de grand est un peu volée, indue, bon, ou bien est-ce que finalement la continuité du processus, sa lenteur, fait que cette nouvelle image sera incorporée comme la sienne. Il n'y aura pas cette identité ou cette croyance que finalement l'identité nouvelle de grand est indue ou a été volée.
C'est une bonne question. Je veux dire, dans l'esprit du corps social actuel, on ne dira pas que ça a été volé. Je crains qu'on ne dise qu'elle a été gagnée. Gagnée par des moyens parce que c'est indu de la société de le faire. Vous posez une bonne question et je n'ai pas la réponse. Et c'est un point que je n'ai pas eu le temps de soulever tout à l'heure, mais pour être très caricatural, et c'est une critique de la pratique médicale actuelle, je crois que je dois en partager un peu la responsabilité, à savoir que dans ce domaine du traitement appliqué à ce cadre-là, qui n'est pas un cadre de pathologie avérée, ou facile à définir, 1% des publications évaluant les résultats du traitement à court et à long terme, 1%, portent sur des aspects psychosociaux. Et 99% portent sur des centimètres. Je crois que c'est assez éclairant. Alors, il y a des explications, parce que ce n'est pas facile, c'est sûrement plus facile de mesurer que de regarder ce que signifie la mesure, d'abord. Et ensuite, je dois dire, j'ai quand même un peu l'impression que derrière tout ça, il y a une telle pression économique et une pression de l'industrie pharmaceutique qui a besoin de réussir. Et c'est plus facile de réussir en alignant des centimètres que de démontrer une réussite en évaluant le vécu de tout ceci. Donc, je crois que là, petit à petit, le corps médical et les gens qui travaillent avec lui s'engagent maintenant dans d'autres types d'évaluations, mais il a fallu beaucoup de temps.
Oui, j'ai été étonnée que vous n'ayez mentionné le problème de la contamination de l'hormone de croissance par la maladie de Creutzfeldt-Jakob quand on n'utilisait pas encore l'hormone recombinante.
Oui, mais pourquoi vous vouliez que je veux dire, je ne veux pas esquiver la question,
problème,
mais je vais vous dire d'abord risque, attendez, je vais vous dire pourquoi. Une première explication, c'est que avant qu'on ait de l'hormone recombinante, il y en avait tellement peu qu'il n'était venu à l'esprit de personne qu'on puisse traiter des enfants qui n'avaient pas une maladie de l'hypophyse. Donc, c'était clair et net, et nous n'avions vraiment pas ou presque pas de problème. À partir du moment, et c'est ça que j'appelais le progrès technologique, où on a pu fabriquer une hormone recombinante en quantité illimitée, la seule limite étant le prix, la question se pose tout autrement. Et c'est pour ça qu'actuellement, on est progressivement confronté dans les études qui portent sur des essais thérapeutiques ou leur montage, ou face à la demande du public, on est confronté avec l'extension de l'indication. Et c'est à ça que je faisais allusion. Je réponds peut-être pas complètement à votre question.
Ma question aussi portait sur le problème suscité, par exemple, au milieu des années 80, oui. Quand un premier article est paru expliquant les problèmes de la contamination de l'hormone de croissance. Oui. Est-ce que ça n'a pas été... est-ce que des difficultés supplémentaires ne sont pas apparues dans les services de traitement par l'hormone suite à, justement, la publication de cet article? Est-ce que vous êtes déposé plus de questions encore que vous ne vous en posiez avant?
Non, mais là, on s'en est posé beaucoup. Beaucoup, beaucoup. On continue de s'en poser beaucoup. Ça, c'est une dérive tragique de l'histoire d'un médicament. Mais, je veux dire, ça n'a pas à voir avec ce que je traite là aujourd'hui. Je veux dire, à la limite, l'impact... Non, je ne crois pas. L'impact a été que plus personne ne voulait prendre de l'hormone de croissance. Je veux dire, moi, j'ai trouvé ça plutôt bien. Mais, enfin, il ne faut pas exagérer. C'est le témoin de Jéhovah qui ne veut pas de transfusion sanguine ou l'insuffisance hypophysaire qui ne veut pas de traitement par l'hormone de croissance. Ça pose quand même des problèmes de conscience aux médecins, n'est-ce pas? Mais maintenant, on est loin de tout ça. Les gens ont compris qu'on a un autre médicament neuf qui pose plus de problèmes, point. Et on a un peu tourné la page. On rencontre peu de personnes nous questionnant sur le risque et il est facile à écarter et notre discours est crédible. Voyez-vous, je dirais c'est dommage. En miroir de c'était bien tout à l'heure, à la limite. Hein. Parce que la banalisation de quelque chose qui ne devrait pas être complètement banalisé, mais je crois que c'est vrai pour beaucoup de médicaments, hein, mais, et me paraît un vrai problème de société.
Juste une petite question, est-ce que des gens...
Il n'y a pas de petites questions, vous savez.
Vous consultez moi, je suis souvent dérouté pour des par enfants trop grands.
Pardon ?
Est-ce que des gens vous consultent pour des enfants trop grands ?
C'est les mêmes problèmes de normes.
Et
oui.
Notamment
qui
les
est trop
filles.
Grand, notamment les filles. Qui est trop grand et qui n'est pas trop grand ? Ah oui, oui, oui. C'est... On est d'ailleurs à la limite, on est plus mal dans sa peau quand on est très grand que quand on est petit, si on veut généraliser. C'est une notion de pratique. Je peux me tromper. Comment ? J'arrête rien du tout. Moi, je laisse les gens grandir parce que je leur dis qu'en Hollande, ils ont 10 cm de plus et ils réussissent beaucoup mieux que chez nous. Je ne vois pas pourquoi on se pose de faux problèmes. Il ne faut pas poser aux questions... Enfin, je peux faire une réponse d'ordre général. Il y a des exceptions, même à la réponse que je fais. On peut se trouver dans des situations qu'on doit franchement considérer comme pathologiques. D'accord ? On a trouvé des explications biologiques extraordinairement innovantes au fait que... Il y avait eu 4 personnes depuis un demi-siècle qui avaient dépassé 2,20 m. Mais ce n'est pas votre question.
Ça, c'est une question, peut-être pas pour vous, mais pour les. S'il y a des généticiens, des populations dans la salle, il me semble qu'on dit toujours que l'espèce humaine va vers une convergence qui est en gros le brésilien, etc. Un peu foncé et tout ça. Mais il me semble que les gens se mariant ou s'accouplant un peu avec les mêmes tailles. On a là l'un des seuls facteurs humains qui va, à mon avis, se discriminer. Et on a de plus en plus des grands et des petits, dans la mesure où on voit très peu de couples avec des gens très dissymétriques. Ça signifie que ce phénomène de... On aura des distributions de moins en moins gaussiennes. Il peut apparaître, en fin de compte, deux populations ou deux races dans l'espèce humaine, les grands et les petits.
Écoutez, alors, c'est intéressant ce que vous dites là, monsieur de Mazure. On est confronté, en termes de normes, à un problème. Ça ne va pas être une réponse exacte à la question que vous posez. Je veux dire, tous les chiffres, tout ce qu'on voit là maintenant, tout ce qu'on peut recueillir depuis un siècle, ne va pas tout à fait dans le sens que vous décrivez d'étirement vers deux populations opposées. Mais pourquoi pas ? Mais on est vraiment confronté, en termes de population, à l'échelle mondiale, à la question suivante. Dans les pays développés, dans les pays en cours de développement, je ne sais pas si la France est un pays développé ou en cours de développement, mais non, je vais vous dire pourquoi. Parce que les niveaux de taille sont très différents sur la planète. On ne peut pas récuser qu'il y ait des facteurs génétiques, bien sûr, hein, mais l'influence des conditions socio-économiques et de nutrition est tellement grande que... chaque fois qu'on les voit s'améliorer, on voit s'améliorer la taille. Et en particulier des enfants avant l'âge de 3 ou 6 ans, parce que c'est la période la plus critique qui détermine un peu l'avenir statural de l'enfant, de beaucoup de choses. Et alors nous, on s'est posé la question de savoir quelles normes on devait utiliser en France, en Hollande, aux États-Unis ou en Angleterre pour avoir un élément de référence pour notre travail, disons tout simplement. Et le consensus... Je veux dire, il y a deux voies possibles et chacune a sa justification. On prend les normes des secteurs, disons, où le travail était bien fait, qui sont les plus évolués, qui ont été établis sur des populations très représentatives. Ça va être les normes probablement les plus élevées. Et la comparaison va se faire lorsqu'on se donne des objectifs de correction de nutrition, par exemple de lutte de carence contre le fer ou carence en fer ou la carence en iode à travers le monde, qui est un très grand problème de nutrition, beaucoup plus importante que le McDonald's en France. Et on va se donner des normes, on va regarder par rapport à ces normes internationales qui sont des objectifs. Maintenant, si dans une population donnée, un médecin va avoir une pratique dans une population donnée, il peut utiliser lui-même pour étudier l'itinéraire du cas individuel, des normes locales, même si elles ne montrent pas une situation absolument optimisée. Donc, il y a eu des choix à faire en termes de référence et de signification des références que l'on utilise. Ah, on va passer à la psychanalyse.
J'aimerais revenir à la question de la représentation du corps. Et vous posez une question. Il y a, bien entendu, il y a la taille psychique aussi bien que la taille corporelle. Et une des questions, c'est comment cette taille psychique se forme. Et c'est toujours en rapport aux autres, aux grands. Et dans un sens, il n'est peut-être pas tout à fait à côté de la plaque de se demander, pour nous, qu'est-ce un corps ? Parce que la représentation de notre corps pose tellement de problèmes, et c'est évident qu'il y a des rapports avec le sens de l'identité, d'une part, et puis un rapport avec un rapport à soi et un rapport à l'autre. Donc, qu'est-ce que vous pourrez dire quant à l'évolution de ce va-et-vient entre représentation de son propre corps chez l'enfant et la représentation qui peut être faite par, mettons, les parents de l'enfant? Et juste une note en bas de page, je connais un cas d'un enfant qui avait 7 ans qui avait été amené à un médecin parce qu'il était trop petit. Mais lui, il ne voulait pas y aller, justement. Et il essayait de récuser la valeur de sa propre taille, dans un sens, ou peut-être, qui sait ce qu'il faisait. Mais il y avait une bataille acharnée entre enfants et parents. Et la représentation des sens de son corps était bien différente dans les deux cas.
Moi, je vous touchez à un problème qui très complexe pour le praticien. Moi, je ne suis pas psychanalyste. Très complexe pour le praticien. Parce que, juste pour vous donner un peu le cadrage de la pratique, premièrement, on se demande, ce n'est pas la même chose de voir la question posée par les parents pour un enfant qui, disons, n'est pas encore rentré dans le monde social, et le premier monde social de l'enfant est quand même la scolarisation, où il se mesure, il se compare aux autres. Et la tendance est à poser cette question aujourd'hui de la manipulation, de la signification de la petite taille et éventuellement de sa manipulation, son traitement, on peut choisir les mots, très tôt. Donc on est confronté avec le problème de l'image que les parents se font de l'enfant et de la projection qu'ils vont faire sur le devenir de cette situation. Et c'est une grande difficulté parce que, pour être schématique et probablement faux quand on fait des schémas, on peut soupçonner aussi les parents d'avoir un rôle. C'est à ça que je voulais faire allusion tout à l'heure. Hein. Et à l'extrême, je me souviens avoir suivi pendant 6, 7 ou 8 ans, je ne sais plus, ou même plus que ça, près de 10 ans, un enfant dont la croissance a été absolument bloquée. Cet enfant a été parallèlement suivi par une psychanalyste réputée, Ginette Rimbaud, et nous avons mis 7 ou 8 ans pour trouver la clé du problème, qui était le refus par la mère de voir son enfant grandir, mais qui a été démontré, explicité, etc. Donc, mais c'est un refus qui se matérialise, c'est pas simplement une idée que, bien évidemment. Donc, ça, c'est une chose. Maintenant, lorsque l'enfant est... la question se pose à un moment où l'enfant acquiert une certaine autonomie, 6-7 ans, je ne crois pas que je vais bien répondre complètement à votre question, la difficulté reste très, très grande parce que, je crois, trop fréquemment, nous, médecins, n'avons pas, n'exploitons pas suffisamment la possibilité d'évaluer la pertinence, le poids, la nature de la demande de l'enfant lui seul, parce que cette demande est souvent, noyée ou dominée par la demande parentale. Et là, moi, je ne sais plus comment se joue le jeu d'image. Et je crois qu'il est très important, pour revenir un peu au sens que je peux percevoir dans votre question, il me semble qu'il est très difficile et très important, et on n'a pas tellement travaillé là-dessus, de comprendre avec l'enfant le pourquoi de sa venue, je dirais même à peine le pourquoi de sa question, et de l'intégrer dans la décision. Parce que effectivement, comme on y faisait allusion tout à l'heure, on peut quand même se poser des questions sur la signification du résultat ultérieurement. et finalement comment il va incorporer tout cet itinéraire s'il a été réellement très long dans son vécu ultérieur. Et là moi je me sens un peu faible.
Bien, merci beaucoup. Et merci à tous les orateurs.